82. La salle dans laquelle devait se tenir la manifestation était presque aussi vaste que le réfectoire et munie de sièges pliants, passablement inconfortables, découvrit Trévise. Elle pouvait accueillir environ 150 personnes. En tant qu'invités de marque, les visiteurs furent conduits au premier rang, ce qui procura à divers alfans l'occasion de commenter poliment et favorablement leur mise. Les deux hommes avaient la poitrine nue, et Trévise bandait ses abdominaux chaque fois qu'il y pensait, baissant de temps à autre les yeux avec une certaine autosatisfaction sur sa poitrine couverte d'une toison brune. Pélorate, tout à l'ardeur de son observation, était parfaitement indifférent à son allure personnelle. Le corsage de joie attira quelques discrets regards intrigués, mais personne ne fit le moindre commentaire. Trévise nota que la salle n'était qu'à moitié pleine et que l'assistance était en grande majorité composée de femmes, puisque, sans doute, la plupart des hommes étaient encore en mer. Pélorate lui lança un coup de coude en chuchotant.
« Ils ont l'électricité ?»
Trévise avisa les tubes verticaux sur les murs et d'autres suspendus au plafond. Ils diffusaient une lumière douce. Des tubes fluorescents. Tout à fait primitifs.
Certes, mais efficaces. Et nous avons les mêmes objets dans nos chambres et au sanitaire. Je pensais qu'ils étaient simplement décoratifs. Si nous pouvons découvrir comment on les allume, nous n'aurons plus besoin de rester dans le noir. Ils auraient pu nous le dire,
dit Joie irritée.
Ils ont cru que nous le savions,
nota Pélorate,
que c'était évident pour tout le monde.
Quatre femmes venaient d'émerger de derrière un rideau pour s'asseoir en groupe dans l'espace sur le devant. Chacune d'elles tenait un instrument de bois verni de forme identique, quoique pas aisément descriptible. Ces instruments différaient nettement par la taille. L'un était tout petit, deux autres un rien plus grand, et le quatrième considérablement plus volumineux. Chaque femme tenait également dans sa main libre une longue tige. L'auditoire siffla doucement à leur entrée, et en réponse, les quatre femmes saluèrent. Chacune portait, serrée autour de la poitrine, une bande de tissu qui lui maintenait étroitement les seins, comme pour les empêcher d'entraver le port de l'instrument. Interprétant les sifflets comme un signe d'approbation ou de plaisir anticipé, Trévise crut poli d'y mettre du sien, à quoi Phalum ajouta une trille qui était bien plus qu'un sifflet et commençait déjà d'attirer l'attention quand une pression de la main de Joie la fit taire. Trois des femmes, sans crier gare, se calèrent sous le menton leur instrument, tandis que le plus grand de ceux-ci demeurait par terre, entre les jambes de la quatrième instrumentiste. La longue tige dans la main droite de chacune vint dans un mouvement de scie racler les cordes tendues sur presque toute la longueur de l'instrument, tandis que les doigts de la main droite couraient rapidement sur la partie supérieure desdites cordes. Ceci, estima Trévise, devait être le crissement qu'il avait escompté. Mais à l'oreille, le son n'avait rien de crissant. C'était, au contraire, une douce et mélodieuse succession de notes, chaque instrument jouant sa propre partie, tandis que le tout fusionnait de manière plaisante. L'ensemble n'avait pas l'infinie complexité de la musique électronique. La vraie musique ne pouvait s'empêcher de songer Trévise et n'était pas dépourvue d'une certaine monotonie. Pourtant, à mesure que le temps passait et que son oreille s'accoutumait à cette étrange palette sonore, il se mit à y déceler certaines subtilités. La chose était certes fastidieuse, et Trévise songea non sans regret à l'éclat, la précision mathématique et la limpidité de la musique réelle. Mais l'idée lui vint que s'il écoutait assez longtemps la musique émanant de ces simples objets de bois, il pourrait bien finir par l'apprécier. Le concert était entamé depuis au moins trois quarts d'heure peut-être, quand Hiroko apparut sur scène. Elle remarqua tout de suite la présence de Trévise au premier rang et lui sourit. Ce dernier joignit avec encore plus de cœur ses sifflets à ceux de l'assistance. Elle était magnifique avec sa jupe longue et raffinée, une grosse fleur dans les cheveux, et rien pour lui couvrir les seins puisque, manifestement, il ne risquait pas de gêner la manipulation de son instrument. Celui-ci se trouvait être un tube de bois sombre long d'une bonne soixantaine de centimètres sur près de 2 de diamètre. Elle le porta à ses lèvres et souffla dans une ouverture proche de l'extrémité, produisant ainsi une note douce et ténue, dont la hauteur variait lorsque ses doigts manipulaient des touches métalliques disposées tout le long du tube. Dès la première note, Phalum saisit le bras de Joie et lui dit
« Joie, c'est un « rfif » !»
Et la jeune femme crut encore entendre « fifel ». Joie hocha sévèrement la tête, mais Phalum insista à voix basse
« Mais si, c'en est un !»
D'autres spectateurs se retournaient vers Phalum. Joie lui plaqua fermement la main sur la bouche et se pencha pour lui chuchoter à l'oreille un « silence » énoncé avec une insistance presque subliminale. Phalum écouta dès lors jouer Hiroko sans plus rien dire, mais ses doigts s'agitaient spasmodiquement, comme s'il manipulait les objets le long du tube de l'instrument. Le dernier exécutant du concert était un vieillard muni d'un instrument au flanc cannelé qu'il portait suspendu aux épaules. Il en dépliait et repliait le soufflet, tandis qu'une main, d'un côté, courait sur une succession de touches noires et blanches, et que l'autre, sur le flanc opposé, pressait des boutons par groupe. Trévise jugea le son émis particulièrement éprouvant, et même assez barbare. Il lui remettait en mémoire, évocation désagréable, les glapissements des chiens sur Aurora. C'était moins le son que les émotions qu'il soulevait qui étaient analogues. Joie donnait l'impression de vouloir se plaquer les mains sur les oreilles, et Pellorat avait le visage soucieux. Phalum seul semblait goûter la prestation, car elle tapait doucement du pied, et Trévise, lorsqu'il le remarqua, s'aperçut à sa propre surprise que cette musique avait un rythme assorti au battement de pied de Phalum. Le morceau s'acheva enfin, déclenchant une véritable tempête de sifflets au-dessus de laquelle les trilles de Phalum étaient nettement perceptibles. Puis l'assistance éclata en petits groupes qui se mirent à discuter bruyamment comme le faisaient toujours les alphans dès qu'ils étaient réunis en public. Les divers exécutants du concert se tenaient sur le devant de la salle et parlaient avec ceux qui venaient les féliciter. Phalum échappa à Joie pour se précipiter vers Hiroko.
« Hiroko !»
lança-t-elle hors d'haleine.
« Montrez-moi le rfif !»«
Le quoi, ma chérie ?»«
La chose avec laquelle vous avez fait de la musique. Oh !»
Elle rit.
« C'est une flûte, mon petit. Puis-je la voir ?»« Voilà. »
Hiroko ouvrit un étui et sortit l'instrument. Il était en trois parties, mais elle le remonta prestement, le tendit à Phalum en dirigeant l'embouchure près de ses lèvres et lui dit
« Là, tu souffles dessus. »« je sais !»
dit Phalum impatiente, en tendant les mains vers la flûte. Automatiquement, Hiroko releva son instrument.
« On souffle, mais on ne touche pas. »
Phalum parut déçu.
« Puis-je alors simplement le regarder ? Je n'y toucherai pas. »
« Mais certainement, ma chérie. »
Elle lui rendit la flûte et Phalum la contempla avec avidité. Alors, l'éclairage des tubes fluorescents décrut légèrement. Et l'on entendit une note de flûte, légèrement incertaine et fluctuante. De surprise, Hiroko faillit en échapper son instrument, tandis que Phalum s'écriait
« J'ai réussi ! J'ai réussi ! Jambi avait bien dit qu'un jour j'y arriverais !»
« Est-ce toi qui as produit ce son ?»
s'étonna Hiroko.
« Oui, c'est moi, c'est moi !»«
Mais comment as-tu donc fait, mon enfant ?»
Joie intervint, rouge de confusion.
« Je suis désolé, Hiroko, je vais l'emmener. »«
Non !»
dit la jeune fille.
« J'aimerais qu'elle le refasse. »
Quelques alphans parmi les plus proches s'étaient rassemblés pour observer la scène. Phalum plissa le front, comme si elle faisait un gros effort. Les tubes fluorescents pâlirent encore plus qu'avant, et de nouveau, on entendit la note de flûte, cette fois pure et stable. Puis elle devint erratique, tandis que les pièces métalliques disposées sur le tube commençaient à se mouvoir toutes seules.
« C'est un petit peu différent du « rfif »
dit Phalum légèrement hors d'haleine, comme si le souffle qui avait animé la flûte avait été directement le sien.
Pélorate s'était penchée vers Trévise.
Elle doit tirer son énergie du courant électrique qui alimente les tubes.
Essaie encore ?
Demanda Hiroko d'une voix étranglée. Phalum ferma les yeux. Cette fois, la note fut plus douce et mieux maîtrisée. La flûte jouait toute seule. Nul doigt ne la manipulait, mais seulement, à distance, l'énergie transmise par les lobes encore immatures du cerveau de Phalum. D'abord presque aléatoire, les notes s'organisèrent bientôt en une succession musicale, et toute l'assistance s'était maintenant assemblée autour d'Hiroko et Phalum. Hiroko, qui maintenait délicatement l'instrument à chaque bout entre le pouce et l'index, et Phalum, les yeux clos, qui dirigeait le flux de l'air et le mouvement des clés.
« C'est le morceau que j'ai joué ?»
souffla Hiroko.
« Je m'en souviens !»
dit Phalum, hochant à peine la tête pour éviter de perdre sa concentration.
« Pas une seule note ne t'a échappé !»
dit Hiroko lorsqu'elle eut terminé.
« Mais ce n'est pas bien, Hiroko, vous ne l'avez pas bien fait !»«
Phalum !» s'interposa Joie.
« C'est mal poli, il ne faut pas, je vous prie !»
la coupa Hiroko péremptoire.
« Laissez !» Pourquoi n'était-ce pas bien, mon enfant? Parce que je l'aurais joué autrement? Eh bien, montre-moi.
De nouveau, la flûte joua, mais d'une manière bien plus complexe, car la force qui animait les clés le faisait considérablement plus vite. Les notes s'enchaînaient en succession bien plus rapide et selon des combinaisons bien plus élaborées qu'auparavant. La musique était plus complexe, en même temps qu'infiniment plus émouvante. Hiroko resta figé, et un silence complet avait gagné toute la salle. Même après que Phalum eut terminé son exécution, le silence se poursuivit, jusqu'à ce qu'Hiroko, après un grand soupir, demande
« Petite, as-tu déjà joué ce morceau ?»«
Non, »
répondit Phalum.
« Avant, je ne savais me servir que de mes doigts et je suis incapable de les mouvoir ainsi. »
Puis simplement et sans la moindre trace de vantardise,
« Personne ne pourrait. »
« Peux-tu jouer un autre morceau ?»«
Je peux inventer quelque chose. »
« Veux-tu dire improviser ?»
Le mot lui fit froncer les sourcils et se tourner vers Joie. Celle-ci acquiesça et Phalum répondit oui.
« Eh bien, vas-y, je t'en prie, »
dit Hiroko. Phalum demeura songeuse une minute ou deux, puis elle commença lentement, avec une succession de notes toutes simples, évoquant un climat plutôt onirique. Les tubes fluorescents s'assombrissaient et s'éclairaient à l'unisson des fluctuations d'énergie mentale. Personne ne paraissait l'avoir remarqué, car elle semblait l'effet de la musique plus que sa cause, comme si quelque invisible esprit électrique obéissait aux ordres des ondes sonores. La combinaison de notes se répéta ensuite un peu plus fort, puis avec un peu plus de complexité, puis avec des variations qui, sans jamais perdre la limpidité de la structure initiale, devenaient de plus en plus prenantes, de plus en plus fascinantes, jusqu'au point où il devenait presque impossible de respirer. Et finalement, la suite redescendit, bien plus rapidement qu'elle avait monté, suggérant un plongeon virevoltant qui ramena sur terre les auditeurs, alors qu'ils avaient encore l'impression de voler dans les airs. S'en suivit aussitôt un véritable charivari de viva qui déchira l'air, et même Trévise, pourtant habitué à une forme de musique entièrement différente, songea, non sans tristesse, « Et maintenant je n'entendrai plus jamais ça. » Lorsqu'enfin, comme à regret, fut revenu un calme relatif, Hiroko tendit sa flûte.
« Tiens, Phalum, elle est à toi !»
Phalum voulut s'en emparer avec avidité, mais Joie retint le bras tendu de l'enfant.
« Nous ne pouvons pas la prendre, Hiroko, c'est un instrument de valeur. J'en ai une autre, Joie. Pas aussi bonne, mais il doit en être ainsi. » Cet instrument appartient à qui sait le mieux en jouer. Jamais encore je n'ai entendu pareille musique. Et,
Il ne serait pas séant que je détienne un instrument dont je ne saurais exploiter toute l'étendue des possibilités. Je donnerais cher pour savoir comment on peut en jouer sans même le toucher. »
Phalum saisit la flûte, et avec une expression de profonde satisfaction, la serra contre sa poitrine.